Radio Okapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, la CENI a réceptionné le week-end dernier, ici à Kinshasa, le dernier lot du matériel électoral commandé en Chine, constitué de documents sensibles des bureaux de vote. La centrale électorale a annoncé dans un communiqué précisant qu'il s'agit des fiches des résultats et des procès-verbaux des opérations de vote. Et puis cet appel de l'évêque du diocèse catholique de Goma au Nord Kivu aux différents belligérants impliqués dans la guerre actuelle au sud de la province a privilégié les voies pacifiques pour une désescalade des violences. Monseigneur Willy Ngumbi l'a déclaré en fin de semaine lors d'un point de presse tenu à Goma. Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi, est l'invité de ce journal. Il dresse le bilan de la campagne électorale à moins de 10 jours des élections. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. Bonjour, bienvenue et bonne écoute. Vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante a réceptionné peu après minuit de vendredi dernier le dernier lot du matériel électoral commandé en Chine. Il s'agit des documents sensibles des bureaux de vote d'un tonnage de près de 83 000 kg. La CENI, qui l'a annoncé dans un communiqué samedi, dit qu'il s'agit des fiches des résultats et des procès-verbaux des opérations de vote supervisées et conditionnées par ses équipes. Celles-ci étaient dépêchées sur place depuis plusieurs semaines et réparties par circonscriptions, par antenne et par province. Alain Irung nous en dit plus.
Aussitôt débarqué, cet ensemble des documents sensibles a pris la direction de l'entrepôt de la CENI avant l'opération de transbordage en vue de son acheminement dans les provinces. Pour ne pas favoriser une quelconque manipulation, le matériel est hautement sécurisé, précise la CENI. C'est au petit matin du samedi 9 décembre 2023 que le personnel commis à la tâche a opéré des groupages par destination, avant leur nouvel embarquement en vue d'être acheminé vers les destinations respectives, pendant qu'une autre quantité demeure bien évidemment à Kinshasa. Il importe d'indiquer que le matériel non sensible produit localement avait déjà fait l'objet du déploiement, indique la CENI.
Notez qu'en ce qui concerne le déploiement du matériel électoral, la République d'Angola va apporter un appui logistique à la CENI pour le déploiement du matériel électoral sensible. Kinshasa et Luanda ont décidé de mettre en place la flotte aérienne angolaise pour déployer les fiches des procès-verbaux et des bulletins de vote des élections du 20 décembre prochain à travers la RDC. Cette intervention arrive après la demande formulée par la CENI au gouvernement congolais afin que ce dernier lui donne des avions et hélicoptères pour déployer rapidement les restes de son matériel. Pendant ce temps, le candidat président de la République numéro 21 n'a toujours pas fait le déplacement de Lubumbashi pour battre campagne. Dans une communication politique faite hier dimanche dans la capitale du Cuivre par le secrétaire général de son parti, les CID, Martin Fayoulou y était attendu depuis samedi, mais son avion ne peut pas rallier la ville de Lubumbashi faute de carburant car tout serait réquisitionné par le gouvernement. Martin Fayoulou était à Gomena, au sud Ubangi et à Lissala dans le Mongala. On revient sur Devos Kitoko, le secrétaire général du parti Engagement pour la citoyenneté et la démocratie. Il est au micro de Jean Gandou.
Le président Martin Fayoulou devait nous rejoindre ici. Il aura l'information de tous les services publics que le gouvernement congolais a réquisitionné tous les carburants dans tous les aéroports de notre pays. Ils ont tenté de rejoindre Mbandaka pour se ravitailler. Il n'y a pas de carburant. Ils ont appelé à Kinshasa. Ici à Lubumbashi, on leur a dit, le gouvernement a réquisitionné tout ce qu'il y a comme stock de carburant et que tout avion avant de se ravitailler en carburant devait avoir une autorisation préalable de la présidence de la République. Nous sommes en campagne électorale dans un pays à dimension continentale. L'avion reste le seul moyen pour parcourir les 26 provinces ainsi que les villes importantes de notre pays. On se réveille un matin, un gouvernement d'un pays qui se dit République démocratique bloque le ravitaillement des avions privés. Voilà pourquoi j'ai réuni la presse pour dénoncer ces pratiques antidémocratiques.
Et pour sa part, le candidat Denis Mukwege a également formulé ce même week-end la même plainte dans un communiqué. Le prix Nobel de la paix a déploré notamment la réquisition du carburant dans tous les aéroports pour, dit-il, l'empêcher de battre campagne. Pendant ce temps, Félix Tshisekedi est arrivé hier dimanche à Goma, au nord Kivu, en provenance du sud Kivu. Dans son meeting, il a promis notamment de mettre fin à la guerre et libérer les territoires déjà occupés par le M23, soutenus par le Rwanda. Il a aussi promis d'étendre la gratuité de l'enseignement au secondaire et la gratuité de la maternité en province. De son côté, le candidat Moïse Katumbi tire la sonnette d'alarme concernant la détérioration de l'état de santé de Salomon Kalonda, son conseiller spécial qui est en détention. Le candidat numéro 3 a fait cette déclaration hier dimanche à Kinshasa dans une conférence de presse au lendemain de son meeting sous le terrain Sainte-Thérèse d'Ondjili. Il affirme avoir été empêché à deux reprises de rendre visite à Salomon Idi Kalonda et interpelle le chef de l'État pour sa libération. On écoute Moïse Katumbi au micro de Grâce Amzati Massanzi.
Ça fait maintenant deux fois qu'on me refuse de voir mon conseiller politique à l'hôpital ici à Kinshasa. Il y a de cela deux mois et demi, j'avais demandé l'autorisation de le voir, on ne m'a pas autorisé. Je suis allé encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est entre la vie et la mort. C'est vraiment inhumain, c'est de l'acharnement. Et je me pose la question si le président Félix était un vrai opposant. S'il a fait réellement de l'opposition. Parce que même à l'époque, lui aussi avait besoin de voir de prisonniers de l'IDPS et d'autres prisonniers politiques. Kabila l'autorisait. On est en train de tuer Salomon à petit feu parce qu'il est entre la vie et la mort. Il y a eu un rapport médical avec deux médecins. Le président de la République a obligé d'ajouter encore 18 médecins. Malgré le rapport de 20 médecins, Salomon est toujours bloqué et il n'y a personne qui peut le voir. Moi, je suis comme son grand frère. Je suis son président du parti politique et c'est mon conseiller politique. Je crois, s'il arrivait quelque chose à Salomon, que le président Tshisekedi ne puisse pas venir nous dire qu'il n'était pas au courant, parce qu'il est spécialiste en ça. C'est vraiment de l'arbitraire, c'est injuste.
Et toujours dans le cadre de la campagne électorale, rappelons ce qu'ont été les activités d'autres candidats à la présidentielle ce week-end. Tony Bolamba était à Kisangani dans la Tshopo où il a prêché pour l'austérité. Quant à elle, les candidates Joël Bilé et Marie-Josée Ifoku poursuivent leur campagne pour l'instant sur place ici à Kinshasa. Adolphe Mouzito a tenu son meeting à Mbujimayi au Kasaï oriental et a promis de promouvoir l'agriculture et de désenclaver la région du Kasaï. Hier dimanche, il est arrivé à Kisangani. Jean-Claude Baende a également tenu son meeting à Mbandaka dans la province de l'Équateur en promettant la paix et le pain pour le développement de la RDC. Et dans la ville de Beni, au nord Kivu, de nombreux habitants se plaignent du tapage nocturne depuis le début de la campagne électorale. En effet, certaines équipes de propagande et d'autres convois motorisés battent campagne jusque tard dans la nuit à travers les quartiers de la ville. La police et la CENI se renvoient la responsabilité. Reportage de Guylaine Kassassia.
Des véhicules où sont installés des dispositifs sonores avec de porte-voix arpentent les rues et avenues de Beni à longueur de journée. Ils diffusent des messages et chansons de propagande des candidats présidents de la République et aux législatives. Dans plusieurs quartiers, ces véhicules circulent jusqu'à tard la nuit, parfois jusqu'aux petites heures du matin. Une situation qui trouble la quiétude de la population, comme le dénonce cette habitante du quartier Kalinda.
Je trouve que ça me dérange parce que ça va même jusqu'à 23 heures. Alors moi, je demande s'il n'y a pas d'air pour limiter la campagne parce que toute la journée, on les écoute. Mais en plus de cela aussi, ils dérangent toujours la nuit. Alors je demande si la journée ne suffit pas pour les faire et qu'on nous laisse nous reposer la nuit. Que la police nous aide à les interpeller parce que c'est du tapage nocturne. Nous sommes même éloignés de la ville. J'imagine cette ambiance là au centre-ville. Nous dénonçons cette
Contactée, la police nous a renvoyé auprès de la CENI Beni qui, de son côté, parle d'une période spéciale des campagnes électorales. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Je le disais dans les titres, au nord Kivu, l'évêque du diocèse catholique de Goma appelle les différents belligérants impliqués dans la guerre actuelle au sud de la province à privilégier les voies pacifiques pour une désescalade des violences. Monseigneur Willy Ngumbi l'a déclaré en fin de semaine lors d'un point de presse à Goma. Le prélat catholique déplore la guerre actuelle impliquant les rebelles du M23 et le gouvernement qui, de nos jours, a scindé le diocèse de Goma en deux parties. Il estime, lui, que la méthode violente ne résoudrait pas cette crise. Monseigneur Willy Ngumbi, dans cet extrait choisi par Bernard Nyangui.
Vous connaissez la situation dans laquelle nous sommes, dans notre diocèse de Goma, un diocèse qui est coupé en deux. Il y a des paroisses qui sont dans la région sous contrôle du M23 et d'autres paroisses sous le gouvernement central de notre pays. Et nous aimerions d'abord demander à tous les belligérants, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté du M23, qu'ils cherchent le moyen de mettre fin, d'arrêter la guerre du M23. Elle a créé trop de souffrances. Vous savez, actuellement, l'approvisionnement de la ville de Goma est difficile. La vie est devenue très chère. Alors il faut qu'elle cesse. Et c'est pour ça que les évêques viennent. Ils ne viennent pas pour dire on va soutenir tel contre tel, mais ils viennent pour que la guerre cesse, pour que la paix revienne. Et une paix durable qui implique évidemment les pays voisins. Ils viennent comme église du Rwanda, du Burundi. Nous prions ensemble pour la paix dans cette sous-région des Grands Lacs.
Rappelons que Mgr Willy Ngumbi a annoncé à cette occasion une messe pour la paix le 28 janvier 2024 à Goma. Elle sera dite par les évêques membres de l'Association des conférences épiscopales en Afrique centrale, ACEAC, telle que décidée lors de leur dernière rencontre du 16 au 18 octobre dernier. Pendant ce temps, sur terrain au Nord Kivu, la situation a été calme mais toujours volatile hier dimanche sur les différentes lignes de front opposant les rebelles du M23 à l'armée congolaise dans les territoires de Masisi. D'après plusieurs sources locales, après un affrontement jusque tard dans la nuit de samedi à hier dimanche, les lignes n'auraient pas vraiment bougé autour des localités de Kirotche et Chacha, à environ 10 km de Sake. Le M23 occupe toujours la colline d'Engingwe, surplombant Chacha. Par ailleurs, les gouverneurs de l'Ituri demandent à la population de cette province en général et du sud d'Irumu en particulier de ne pas céder à la manipulation en s'attaquant à la MONUSCO. Le général Johnny Luboya l'a dit samedi dernier au cours de sa visite à Tchabi, 120 km au sud de Bunia. Le gouverneur de l'Ituri a lancé ce message par rapport à la manifestation des jeunes la semaine dernière à la base des casques bleus suite à de fausses informations. Dans son adresse à la société civile et aux leaders communautaires dans la zone, il a déclaré que la MONUSCO appuie le gouvernement pour combattre les groupes armés et assurer la protection de la population, dont des milliers de déplacés dans les territoires de Djougou. Le général Johnny Luboya est au micro d'Isaac Remouyopi.
On ne peut pas s'imaginer que cette MONUSCO, que ce contingent qui a perdu son sang ici, que ce contingent qui s'est sacrifié ici, Boga et Tchabi étaient incendiés tous les jours que Dieu a créés. Comment vous pouvez vous imaginer que ces mêmes personnes commencent encore à aider l'ennemi? Ce sont des gens qui veulent tout simplement diviser. Je viens de parler avec tout le monde là-bas. Tantôt on vous dit, elle a fait ceci, on l'a vu, aller, des choses en fait banales. Mais souvent c'est de la manipulation. Nous sommes arrivés ici, nous avons fait une opération. C'était la MONUSCO qui était à l'arrière-garde pour nous protéger. On a perdu une compagnie en une seule journée. Il n'y avait personne ici. Il n'y avait que la MONUSCO et nous. Alors comment est-ce qu'un jour les gens peuvent dire que non, voilà, non. Ça c'est de la pure manipulation. Et j'ai tous les sites qui sont là-bas à Aro, qui sont à Boulé. Tout ce que nous avons fait à Dialasiga, nous l'avons fait avec. Vous savez très bien ce que nous avons, le problème que nous avons en termes de personnel. Si nous n'avions pas nos amis, vous pensez qu'on allait agir comme ça. Donc nous sommes ensemble avec tous nos partenaires. Que ce soit la MONUSCO avec laquelle nous sommes depuis très longtemps, que ce soit l'UPDF qui est ici aujourd'hui aussi, qui est en train de nous aider à combattre aussi l'ennemi.
Le Conseil des affaires d'État chinois a annoncé la semaine dernière la levée des droits de douane sur les importations de 6 pays africains, notamment la RDC, l'Angola, la Gambie, le Mali, le Madagascar et la Mauritanie. Cette suppression des tarifs douaniers entrera en vigueur le 25 décembre prochain. Des détails de ces reportages dans nos prochaines éditions d'information.
Actualité internationale.
Plus de 4 mois après les avoir mis en place, la CEDEAO maintient ses sanctions contre le Niger. C'est l'une des principales annonces à l'issue du sommet de l'organisation ouest-africaine qui s'est tenu hier dimanche à Abuja. La CEDEAO ne ferme toute pas la porte au dialogue avec Niamey. Et puis l'organisation de la présence russe en Centrafrique a évolué après les questionnements liés à la mort de Prigojine, fondateur du groupe Wagner, fin août dernier. Un nouveau cadre est arrivé à Bangui en vue de chapeauter les activités dans le pays qui vont de la formation militaire à l'exploitation des mines et des forêts.
L'invité.
Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi, est l'invité de ce journal. Il dresse les bilans de la campagne électorale à moins de 10 jours des élections. Frédéric Amani s'entretient avec Alain Hirung.
Frédéric Amani, bonjour.
Bonjour.
À 9 jours de la tenue des élections, quelle analyse faites-vous du déroulement de la campagne électorale ?
La campagne électorale s'est déroulée les trois dernières semaines dans un constat un peu amer, dans la mesure où cette campagne était émaillée de quelques incidents, que ce soit à Kindu, au Kassai et ailleurs. Mais malheureusement, ces incidents n'ont pas été sanctionnés ou condamnés par le gouvernement en traduisant ses coupables devant les instances judiciaires. Mais on note aussi, pendant cette campagne, des candidats sont en lice, c'est-à-dire les candidats sortants du pouvoir Félix Tshisekedi et les candidats de l'opposition Moïse Katumbi, sans minimiser aussi d'autres candidats de l'opposition, que ce soit Martin Fayulu, Dr Denis Mukwege et bien d'autres. Et enfin, on comprend que durant les trois dernières semaines, la campagne était un peu timide pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est que certains candidats se sont lancés dans la course non par conviction, mais sur demande de leur parti politique. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu suffisamment des moyens pour battre campagne. Voilà pourquoi les trois dernières semaines c'était un peu timide, parce que le moyen que les candidats attendaient de leur parti politique n'était pas venu, et eh bien les candidats n'ont pas pu battre campagne. Et enfin, une autre opinion durant ces trois dernières semaines, jusque là il y avait une autre opinion qui pensait qu'il n'y aura pas élection et qu'on cheminait vers les reports ou les glissements. Malheureusement ou heureusement, nous voyons que les choses sont en train d'évoluer très bien et que cette semaine qui va commencer sera une semaine cruciale où presque tous les candidats à tous les niveaux vont se jeter dans la course, et ce sera une campagne de beaucoup de mouvements et beaucoup de précipitations.
Il y a quelques jours encore, des questions se posaient sur les difficultés que rencontrait la CENI pour réceptionner et déployer le matériel sensible à travers le pays. Ce week-end, l'Angola a promis des avions au gouvernement congolais. La CENI a réceptionné le dernier lot du matériel sensible. Comment analysez-vous ces avancées?
Ces avancées viennent traduire la volonté du pouvoir organisateur, donc la CENI, à tenir le délai constitutionnel en organisant ces élections le 20. Mais moi, je pense qu'il y a lieu aussi de soulever une chose. En Afrique ou au Congo en particulier, on s'habitue à cette culture d'urgence où c'est à la dernière minute où on semble mettre toutes les cartes sur table afin qu'on atteigne un objectif. Pourtant, on dit en gestion, en management, que gérer, c'est prévoir. Je crois que la CENI et les pouvoirs en place devraient tenir compte du cycle électoral. On est déjà à la quatrième expérience. Je crois qu'on ne devrait pas avoir beaucoup de doutes ou aller dans la précipitation si toutes les conditions étaient réunies bien avant. C'est vrai, nous saluons le soutien de l'Angola, mais je crois que la RDC ne manque pas de moyens pour s'acheter des avions et que c'est à la dernière minute qu'on veut tendre la main à l'Angola.
Pour terminer, à moins de 10 jours des élections, une candidature commune ou unique de l'opposition est-elle encore possible? On a assisté à des ralliements autour de Moïse Katumbi. Va-t-on assister à des ralliements autour du président sortant Félix Tshisekedi, selon vous?
C'est sûr, cette semaine qui va commencer sera plus cruciale et qu'il y aura des ralliements. Et du côté du président sortant Félix Tshisekedi, mais aussi du côté de l'opposant Moïse Katumbi. Et je pense qu'il faut enterrer cette idée de la candidature commune ou unique de l'opposition, dans la mesure où l'opposition congolaise est plurielle, et cette pluralité de l'opposition congolaise a permis à ce que j'appelle à avoir une opposition hybride et une opposition passerelle. Il y a certains candidats qui se réclament de l'opposition, mais qui sont des opposants hybrides ou passerelles, dans la mesure où ils n'attendent que tel ou tel camp vienne les solliciter pour basculer dans tel camp selon leurs intérêts. Et aujourd'hui, au lieu de parler de la candidature commune de l'opposition, je pense qu'il y a lieu de parler d'une candidature de poids, puisque les ralliements de part et d'autre vont se faire dans cette semaine, mais on a besoin de candidatures de poids, que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, pour espérer, n'est-ce pas, que le meilleur gagne et que ce soit au profit du peuple congolais.
Frédéric Amani, je vous remercie.
Et c'était notre invité Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Il s'entretenait ici à Kinshasa avec Alain Irung. Fin de ce journal qui a été supervisé par Alain Irung, Jean-Claude Siala, la mise en onde. Alors non, je vous dis infiniment merci d'avoir écouté ce journal.